Espace femme.
Mesdames et messieurs, vous êtes sur le studio Kalangou. Vous nous suivez via notre réseau de radio partenaires disséminés dans toutes les régions du Niger. Moi, c'est Diallo Mariama Kenda pour vous servir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans notre nouvelle émission réservée aux femmes pour débattre avec vous de sujets qui constituent pour vous des préoccupations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'espace femme. Merci de rester fidèle au programme du studio Kalangou. Le cinéma nigérien est né avec Mustapha Alassane, Oumarou Ganda, Djingare Meiga, Mamman Bakabe, Inoussa Ousseini et puis Mustapha Diop. À cette époque, une seule figure féminine dominait les écrans, Zalika Soulé, première actrice nigérienne et aussi première professionnelle féminine du cinéma en Afrique. Aujourd'hui, selon Albert Chebou, journaliste spécialiste du cinéma nigérien, une nouvelle vague de jeunes femmes a investi tous les métiers du cinéma, réalisatrice, technicienne, actrice, monteuse. Cette évolution apporte un nouveau regard sur les femmes dans le cinéma nigérien, car ce sont désormais des femmes qui regardent d'autres femmes. Nous allons débattre justement tout de suite de l'image de la femme dans le cinéma nigérien, regard croisé de femmes et d'hommes sur plusieurs films de documentaires et de fiction. Comment les cinéastes représentent-ils la femme dans les productions cinématographiques? Cette représentation a-t-elle évolué depuis les années 60 et 70? Cette nouvelle génération de cinéastes porte-t-elle un nouveau regard? Nous évoquerons plusieurs films nigériens. Pour en parler, je suis en studio avec deux réalisatrices, Ramatou Keita, journaliste-réalisatrice de fiction et de documentaire dans le film Zinaria. Vous le savez, la bague de mariage a été primée plusieurs fois au FESPACO en 2017, à Zanzibar et en Afrique du Sud. Et
à Kazan, au Tatarstan, Fédération de Russie.
Merci Ramatou pour cet ajout. Ramatou Keita, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Et Aïcha Maki, réalisatrice de documentaire dont le film « L'arbre sans fruits » a raflé de très nombreux prix. Bonsoir Aïcha. Combien de prix à ce jour d'ailleurs?
Je ne me souviens plus en fait.
D'accord, le temps de démarrer cette émission, nous reviendrons vers vous Aïcha pour avoir d'autres précisions sur ce film. Au bout de la ligne, nous échangerons avec Antoinette Tidiani Alou, enseignante-chercheure, responsable de la filière art et culture à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonsoir Antoinette. Alors Antoinette, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, surtout que vous êtes actuellement à Abidjan. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission.
Bonsoir Mariama, c'est un grand honneur aussi pour moi d'être là et de discuter de ce sujet qui est important pour moi.
Mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, allons retrouver celle-là même qui fut la première figure féminine sur les écrans du Niger, Zalika Soulé. Le cinéma nigérien et celui de l'Afrique se souviendront à jamais de ce nom, Zalika Soulé, première actrice nigérienne et aussi première professionnelle femme de cinéma en Afrique. Actuellement âgée de 73 ans, Zalika Soulé est mère de 6 enfants. La célèbre comédienne est née à Niamey au quartier Zongo vers 1947 au sein d'une famille musulmane de teint noir. Zalika Soulé est grande de taille. Passionnée depuis sa tendre enfance par le cinéma, celle qui fut la première figure féminine sur les écrans embrasse ce métier en 1966, malgré un contexte difficile qui ne permettait pas à la jeune fille d'exercer dans certains domaines comme le cinéma. Notre héroïne n'a jamais baissé les bras. Albert Chebou, spécialiste du cinéma nigérien, raconte.
Dans un contexte comme celui du Niger, où souvent les gens
ne font pas beaucoup de différence entre la réalité et la fiction. Souvent, quand on joue certains rôles, par exemple des rôles de prostituée ou bien d'une femme infidèle, etc., on s'attire la foudre des gens et puis on devient la risée des personnes. Donc Zalika a vécu dans sa chair aussi certaines critiques.
Soutenue par sa famille, Zalika s'obstine et finit par accomplir son rêve, celui de devenir une actrice reconnue mondialement.
Je me suis quand même assez dépensée pour mon pays, pour faire sortir le nom de mon pays à l'extérieur comme à l'intérieur. Et que vraiment, j'aime et j'ai aimé et je continue à aimer mon travail.
Analphabète, la première femme du cinéma professionnel en Afrique, a joué dans tous les films d'Oumaru Ganda, Oiseau Polygame en 1969, Kabas Kabo en 1970, Cheitan en 1971. Elle a également tourné deux films de Mustapha Alassane, Le Retour d'un aventurier, le FVVA, Femme, Voiture, Villa et Argent, avec Djingare Mega dans L'Aube Noire. Zalika fut aussi actrice de théâtre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle joua le rôle d'une secrétaire dans Pétanqui. Après une formation pratique de 18 mois en montage à Paris, elle rejoint l'ORTN, Télévision Nationale, comme monteuse en 1968 jusqu'en 1978, année de la compression qui voit son poste supprimé. Après une dizaine d'années à la communauté urbaine de Niamey, elle décide de partir en aventure à la recherche de la subsistance que le cinéma ne lui a pas donnée. C'est ainsi qu'elle s'installe 9 années aux États-Unis où elle exerce divers petits métiers. Puis, tout juste revenue au Niger, elle repart au Maroc avec sa fille. Zalika Soulé n'est rentrée pour de bon à Niamey qu'en 2016, après un très long voyage loin du cinéma nigérien et de ses infortunes.
Somo aram bay dan wat kum mat kay dorano to ay gen tay genti
ayna ayna
wato kan inna silma sintin dai ay gonda hambar danga giri waranka yin kasi yankin wala waranka fosi le retour d'un aventurier Mustapha Alassane.
Mustapha Alassane nous a dit qu'il veut tourner un western nigérien.
Vous venez d'entendre, chers auditeurs, un extrait d'un Lessi, donc un film réalisé par Ramatou Keïta, qui est avec nous ici dans ce studio. Vous avez rendu hommage à Ramatou Keïta, au pionnier du cinéma africain, dont Zalika Soulé dans ce film Alessi Destin, dont on vient d'entendre un extrait. Alessi est d'ailleurs le premier documentaire africain en sélection officielle à Cannes. Pourquoi avez-vous fait ce film? Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'histoire de Zalika?
Je dis, mon métier c'est journaliste et ma passion c'est cinéma. En tant que journaliste reporter de télé, à un moment je voulais approfondir un peu des sujets qui m'intéressaient. Et tout d'un coup j'ai pensé à cette génération de cinéastes. Je me souviens quand on était petit, il y avait des gens qui faisaient des films, qui se faisaient insulter partout. Quand j'étais plus grande, j'étais au collège, on avait un ciné-club, on a vu leurs films. Et puis là, ils avaient complètement disparu. Et je voulais, d'abord, moi je suis d'une famille vraiment très très sahélienne, ancré dans ces traditions que j'aime beaucoup. On doit rendre hommage aux anciens, on doit rendre hommage et leur demander la permission de suivre leur route. Voilà. Donc tout d'un coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Je savais même pas que c'était une façon de demander la permission de suivre leur route. Mais tous, on les avait oubliés. Zalika Soulé, mais alors complètement, c'est-à-dire, on allait chercher des archives aux archives nationales, on se disait, mais qui c'est cette dame? Et donc, j'ai trouvé ça injuste, j'ai voulu ressortir leur histoire. Alors, comme en plus Zalika, ses rôles n'étaient jamais très importants, et c'est la seule femme qui a accepté de jouer dans tous les films, parce qu'il y avait d'autres filles qui ont montré le bout de leur nez, mais comme elle se faisait insulter, elle, après un premier film, elle partait. Et donc, j'ai dit, je vais prendre elle comme colonne vertébrale du film, pour qu'on voit. Et c'est comme ça que moi je suis rentrée un peu plus loin dans l'histoire du cinéma nigérien, et comme ça que je découvre que nos cinéastes, en fait le Niger est le premier pays africain à créer une industrie de cinéma. Tous étaient insultés parce qu'on était au lendemain de nos indépendances, parce qu'on était en guerre contre le colonialisme, et on était, il y avait Indochine, Algérie, tout ça, on était en réaction contre l'Occident, et donc tout ce qu'on pouvait faire, de près ou de loin, qui ressemble à des trucs de blanc, était rejeté. Or eux, ils allaient tourner des films, ils fréquentaient des blancs, parce que pour tourner des films, il faut bien fréquenter des blancs, et ils s'habillaient comme des blancs. Ils mettaient des jeans, des machins. Donc, ils se faisaient tous insultes.
Pour les femmes, c'était peut-être encore deux fois plus difficile, compte tenu des pesanteurs socioculturelles.
Moi, dans mon analyse, ce que j'ai vu de la façon dont ils se sont fait traiter, et même dans la façon dont ils ont fini, je trouve qu'ils ont été traités de la même manière. Et Mustapha Alassane raconte qu'il a dû quitter Niamey tellement ils étaient maltraités. Il allait à Tawa. Voilà. Mais c'est eux qui racontent ça dans mon film. Moi, je n'ai pas connu cette période. J'étais pas avec eux.
On poursuit avec Ramatou Keïta pour parler de votre film Zinaria. Vous racontez une histoire d'amour et de tradition dans les couloirs d'un palais de Zinder. Alors, Ramatou Keïta, quelle est la femme que vous nous montrez dans ce film? Et qu'est-ce qui vous intéressait dans cette histoire?
Alors, je montre une femme amoureuse. Moi, je suis Peul, mais de culture sans règne. Et même Jarma, parce que j'ai grandi à Niamey, mais on est Tilaberi. Et puis, d'une ancienne, très ancienne, appartenance à l'aristocratie mandingue de Keïta. Voilà. Donc, moi, je suis née dans des aristocraties. J'ai passé des vacances dans des palais. Et ça, je vais le raconter. Et donc, je raconte une jeune fille qui découvre l'amour avec cette pudeur des peuls, mais que c'est incroyable. Je crois que toutes mes fictions, je raconterai. Parce que comment raconter quelque chose qui ne se dit pas? Voilà. On ne dit pas je t'aime. D'ailleurs, quand tu aimes, tu dis tu n'aimes pas. Voilà. Ou bien tu fais un petit battement des yeux, tu baisses les yeux, ça veut dire que t'es d'accord. Voilà. Je trouve ça très, très beau. Je trouve ça érotique. Je trouve ça sensuel. Et donc, je raconte l'histoire de cette jeune fille qui est peul. Donc, j'ai dit d'un point de vue, donc, le point de vue de l'histoire est sans règle, et ça se passe en pays Hausa. Donc, je mets mes trois cultures dedans, parce que je suis très proche de l'aristocratie du sultanat de Damagaran, et mon père a passé sa vie à nous raconter les faces du sultanat, les chevaux, les boubous brodés, l'or, les griots, les captifs, enfin bref, tout ça. Une histoire d'amour avec beaucoup, beaucoup de pudeur, beaucoup, beaucoup de retenue, mais en même temps, parce que de temps en temps, parmi nous, il y a bien un qu'on envoie en France étudier. Donc, en même temps, elle est partie étudier en Europe. Donc, elle rencontre quelqu'un. La personne qu'elle rencontre, c'est ça aussi qu'on oublie souvent. Parce que moi, c'est arrivé à plein de copines. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous mariez et en fait, vous êtes voisin dans votre pays et que vous vous connaissiez pas. Donc, elle rencontre le fils de l'émir de Maiduguri. Moi, quand j'ai écrit cette histoire, personne ne connaissait Maiduguri à part moi. C'est une façon de parler. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les islamistes, ça, tout le monde connaît Maiduguri. Et Maiduguri, c'était une très belle ville. Donc, elle rencontre à l'université le fils de l'émir. Il décide de se marier. Ils viennent, c'est l'hiver. Et puis, elle attend qu'il vienne l'épouser. Mais comme elle est peul et pudique, elle ne dit pas tout. Ses copines essaient de comprendre ce qui se passe parce qu'on attend le retour, celui qui va demander la main. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Et c'est prétexte donc à raconter tous les codes autour du mariage.
Ça veut dire que dans ce film, cette représentation de la femme que vous faites n'est autre que celle de la femme peul, de la femme sorail, de la femme hausa et des traditions autour de ces ethnies.
De ces ethnies qui sont les miennes que je connais et puis de ce que je sais de ça. On est des matriarcats à l'origine et moi, je sais pas, j'ai jamais vu battre une femme, mais chacun son univers. J'ai vu mes tantes quitter leur mari parce qu'il a levé la voix sur elle, parce que chez les peuls, on lève pas la voix, parce que c'est une humiliation. Elle divorçait. Maintenant, on dit qu'une femme divorce pas. Bon, mais c'est l'islam, ça. C'est pas vraiment nos cultures, c'est l'islam. Donc, moi, ce que je raconte, c'est dans quoi j'ai grandi et je veux témoigner de ça. De toute façon, chacun raconte son univers. Hein, voilà. Donc, moi, c'est ces femmes-là qui sont des femmes chefs, des femmes reines, des femmes maîtresses, mais qui ont leur vie à part aussi, puisque nos vies sont... Elle s'enchevêtre pas toujours avec les hommes. Voilà, ben moi je veux raconter ça.
Sani Magori, le directeur du Centre national de la cinématographie du Niger, estime que les femmes représentées à l'écran sont souvent des femmes qui défendent leurs droits ou qui jouent un rôle moteur dans la société. C'est le cas notamment des héroïnes du doyen de la série noire, Djingare Emeiga.
Moi, je crois que tous les films nigériens parlent des femmes, de la situation de la femme dans son foyer, dans son environnement et tout. La femme rurale, la femme de la capitale, la femme milieu urbain. Et moi, particulièrement, tous les films que j'ai eu à faire, je parle de la femme et je donne la parole à la femme. Dans tous ces films, le thème principal, c'est sur la femme. Moi, c'est l'histoire des femmes qui m'intéresse, que je vois sous mes yeux tous les matins en tant que cinéaste.
On écoute à présent un extrait de son dernier film en cours de montage, La femme noire du village. Voilà donc, on entend une dispute conjugale et de la violence. Encore une fois, la femme est victime des abus de pouvoir, comme très souvent dans le cinéma du doyen. Ces dernières années, une génération de jeunes femmes s'est imposée dans le cinéma documentaire du Niger. Aïcha Maki est la plus connue d'entre elles, mais on peut citer aussi Amina Ouira et son film La colère dans le vent, Nana Adiza Akawala, réalisatrice de Bibata est partie, Linda Diata ou encore Amina Mamani Abdoulaye avec son film Sur les traces de son père, l'auteur de Saraounia, qu'elle a trop peu connu. Alors, avec ces jeunes réalisatrices, voit-on apparaître une nouvelle représentation des femmes, de nouveaux sujets, de nouvelles narrations? Oui, répond résolument Antoinette Tidjani Alou, professeure et responsable de la filière art et culture à l'université Abdou Moumouni. Antoinette, est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis là.
Alors Antoinette Tidjani Alou, vous avez écouté l'intervention de Ramatou Keita, des extraits de différents films, ainsi que l'interview du doyen Djingare Emeiga. Est-ce que vous pourriez nous parler de la représentation de la femme nigérienne dans le cinéma nigérien?
Oui, je suis contente d'être là et je te remercie, Mariama, de m'avoir invitée. Je remercie le studio Kalangou de m'avoir invitée à participer à cette émission importante. La problématique est importante pour moi, sur le plan privé et sur le plan professionnel privé, parce que bon, j'aime les arts dans le cinéma, et professionnel parce que l'université Abdou Moumouni m'a confié le mandat important de piloter la formation et l'ancrage de la filière art et culture. Et donc, dans cette filière, on ne se spécialise pas du tout dans le cinéma, mais on donne une place importante à la formation cinéma, histoire du cinéma, du début à nos jours, analyse filmique, écriture de cinéma, tournage de films de court-métrage, montage, mais aussi sur le plan de la recherche, recherche sur le cinéma nigérien notamment, au niveau master et au niveau doctorat. Donc, sur le sujet, comment présentons les femmes à l'écran au cinéma nigérien, le sujet est vaste. Et moi, je pourrais commencer par dire que finalement, la manière, les images qui sont projetées à l'écran dépend un peu du réalisateur ou de la réalisatrice, du genre du film, fiction, documentaire. Ça dépend de la sensibilité du cinéaste, de son intention, mais aussi du regard de celui ou de celle qui voit le film. Donc, vous voyez, il y a tellement d'angles d'entrée. Moi, je pourrais rentrer par le regard de celle qui voit les... Moi, je regarde un film comme Le retour d'un aventurier de Mustapha Alassane, qui est un film court, mais très, très important, un film que j'adore, parce que c'est l'un des premiers regards mondialisés parti du Niger. C'est le rêve américain autour du western qui épouse la culture sahélienne du cheval. C'est un film qui est merveilleux. Son côté fantasque est très touchant. Ramatou a parlé un peu déjà des Alita Soulé qui l'intéressent en tant que personne, en tant qu'artiste aussi. Et dans ce film, Le retour d'un aventurier, elle joue le rôle de la reine Christine. Elle est parmi les garçons et dans le film, sinon dans la réalité, elle fait des choses que peu de personnes ne font, qu'ils soient garçons ou filles à l'époque, Ramatou l'a dit. C'est-à-dire que son rôle est donc une petite révolution. Elle monte à cheval, elle tire au pistolet, elle est acceptée par par les garçons. Elle n'est pas en train de faire le linge ni d'aider sa mère à la dîne. Elle joue dans un rêve western réinterprété au Sahel dans nos espaces. Un jeune revient de l'extérieur avec une panoplie de cow-boys et fait entrer, il les passe un peu, c'est ses copains et une copine restée au village. Et il essaie de faire un jeu où on entre par le cinéma dans le rêve du grand monde et où on rentre dans l'écran à travers ce qu'on a déjà vu projeté à l'écran dans les films western. Mais ce que je vois dans ce film déjà, c'est que la problématique de la jeune fille peut se lire en filigrane. Elle est avec les garçons, mais c'est un monde hiérarchisé où elle doit laisser passer les garçons d'abord. Hein. Donc, quand on est une femme, on peut lire en sous-texte. Quand on est une femme acceptée dans le monde des hommes, on doit savoir se tenir à sa place. Ce n'est pas l'intention de cinéaste, mais c'est aussi ma lecture de spectacle.
Antoinette Ramatou aimerait donc réagir quelques secondes.
Je voulais dire oui. Non, je disais pour le rôle des femmes, c'est exactement ça. Parce que dans le film, elle a même très peu de dialogue. Pratiquement pas. Donc c'est exactement ça. Mais en même temps, c'est à l'époque où on copie les films occidentaux. Et donc, ils copiaient des westerns, ils portaient des noms de westerns.
Pas du tout, mais c'est pas une copie, hein. C'est ça qui m'interpelle beaucoup. Ce film est en dialogue avec tous ces souffles culturels du monde qui revient chez nous. Les jeunes me disent, les jeunes de l'époque, hein, les grands-pères maintenant, d'aujourd'hui me disent combien on regardait des films westerns. Et finalement, c'est pas du tout une copie en tant que telle, puisque pour moi, Mustapha Alassane prend un regard méta et il réinterprète le rêve. Et pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Mais pour revenir à Ramatou, en tant que réalisatrice d'Alessi, en 2010, il a fallu ce film-là, finalement, pour que le destin de Zalika soit, pour que ça soit de cette femme-là qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas de cette femme-là qu'il s'agit, dans l'aventure, le retour de l'aventurier. C'est pas obligatoire non plus qu'il s'agisse d'elle, hein. Mais dans le film Alessi de Ramatou Keita, c'est vraiment de ce destin, de femme reconnue trop tard, hein. Finalement, parce que reconnue simplement par le regard d'une autre rédempteur. Un autre exemple, on prend le film Tout là-haut, le génie des eaux, de 73, de Mustapha Alassane, toujours. Solange Delanne joue le rôle d'une jolie jeune fille, métisse nigérienne, objet de désir, comme on le sait. C'est elle la protagoniste. Ce film est un film classique qui réserve à la femme nigérienne un destin funeste. Ça finit mal pour Tula. Elle doit être sacrifiée au génie de la mare pour que tout le clan et tout le monde puisse rentrer dans les règles et que le génie empêche les gens de boire de l'eau. C'est très, très classique. Mais le rôle du personnage féminin ici est central, finalement. Le salut vient d'elle, mais le sujet, ce n'est pas vraiment elle. Le sujet, c'est l'eau, c'est la religion ancestrale, c'est comment, en situation de crise, on en vient à chercher le recours dans la religion. Et là, c'est la femme qui est sacrifiée. Donc, elle est centrale, mais elle est centrale comme victime expiatoire, comme victime rédemptrice. Et c'est la même chose dans les films de Jingari Maiga. Il regarde pas. Il regarde les questions sociales et dans les questions sociales, c'est quoi? C'est le mariage, c'est le divorce, c'est les problèmes en famille, c'est la famille étendue, c'est la corruption, c'est le travail pour ceux qui sont au travail. Et les femmes, donc, Jingari, ces films sont noirs et les titres l'annoncent, hein, mais dans les réalités des femmes qu'on présente, que Jingari présente, c'est des femmes battues, c'est des femmes minorées, c'est des femmes pas du tout heureuses. Quand on arrive à la génération des jeunes réalisatrices.
Et on arrive, j'allais justement poser la question.
Ouais, chez elles, c'est un peu différent. Le documentaire, docu-fiction, qui est très, vraiment très subjectif, dans l'art sans fruit de Aïcha Maki, là, on voit les projections d'une femme, le corps de la femme. On voit Aïcha elle-même à l'écran qui est toujours soucieuse de se voiler, de se dévoiler, de se présenter, de se préparer. C'est elle qui réfléchit sur l'infécondité de la femme et les obsessions sociales autour du corps de la femme, qui est une espèce de ventre sous elle parfois. Et dans ce film, qui est un film très courageux, qui est fait par une réalisatrice qui a du courage, qui est combative et qui en veut, on voit que, on a l'impression que la liberté pour la femme nigérienne dans le film, que la liberté n'existe qu'ailleurs.
Antoinette, alors, est-ce que vous pensez que Aïcha Maki, à travers ce film « L'arbre sans fruit », a changé le regard de l'infertilité des femmes dans cette société?
Je ne peux pas dire ce que Aïcha a fait. C'est à chaque spectateur de dire comment il reçoit le film. Je suis touchée par le courage de ce regard. Je suis touchée par une femme qui amène un sujet personnel aussi bien que social, parce que c'est les deux, de les amener à l'écran. Et je trouve qu'Aïcha le fait très bien, c'est-à-dire qu'elle assume ce qu'elle est au moment du film. Elle assume aussi son regard, elle assume aussi ses désirs et ses projections.
Puisque vous en parlez de ce film « L'arbre sans fruit » de Aïcha Maki, on en écoute un extrait.
Chère maman, en donnant la vie, tu as perdu la tienne. Et moi, je meurs à petit feu en ne la donnant pas.
Bon, elle est là, ça m'a dit. Akwai maza amma aihuwar ta yake akwai wata magana.
Combien de couples sommes-nous à souffrir de ces cruels problèmes d'infertilité? Ici, une femme est un arbre à l'ombre duquel se repose son époux à qui elle donne des fruits. Moi, je suis un arbre sans fruits. À quoi peut-on croire dans ces pays où les normes font loi et les hommes sont rois? Peut-on simplement être femme sans être mère au Niger?
Aïcha Maki, avec ce film « L'arbre sans fruits » qui a fait le tour du monde pour parler d'infertilité féminine et dont on vient d'écouter un extrait, « Brisez-vous un tabou, change-vous le regard sur l'infertilité ».
Merci Mariam de me donner l'occasion de venir assister à ce forum-là. Briser les tabous ou pas, tout ce que je sais, je tenais à libérer la parole par rapport à un problème social qui reste quand même tabou, parce que parler de la question de la femme, parler du corps de la femme et de la sexualité, ça reste du domaine du tabou. Donc j'ai voulu, à travers ma propre histoire, donc une histoire personnelle, mais aussi une histoire en parallèle avec l'histoire de ma mère, parler des deux sortes de morts que j'appelle. La mort naturelle, qui est cette mort en couche de ma mère, et une mort sociale, entre guillemets, parce que quand on n'arrive pas à donner la vie, il y a certaines sphères qui, au fil du temps, deviennent presque interdites aux femmes. Parce que quand on y va, c'est des pics qui sont lancés, c'est des regards accusateurs. Donc j'ai tenu tout simplement à donner la parole à d'autres femmes à travers mon histoire et l'histoire de ma mère, pour que la parole se libère par rapport à ce problème de l'infertilité. Changer le regard, je sais pas, en fait, puisqu'un changement, c'est quand même quelque chose qui se voit sur le long terme. Mais tout ce que je sais, et faire le film a permis quand même à certaines personnes qui avaient du mal, par exemple, à aller consulter un médecin, je parle des hommes, qui sont parvenus après avoir vu le film, parce qu'il y a un certain éclairage que les médecins apportent, mais aussi qu'un leader religieux apporte par rapport à toutes ces questions-là, du droit de la femme, dont à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ignoraient, par exemple. On parlait de la question du divorce tout de suite. Beaucoup de gens pensent que c'est religieux. Ça n'a rien à voir. En islam, c'est permis à une femme de divorcer. Quand elle n'est pas bien dans son mariage, elle a le droit de demander un divorce. Donc tout ça, c'est des éclaircissements que certains personnages du film ont apportés. Et c'est le cas aussi là où un médecin explique, par exemple, qu'il y a un petit problème de mobilité des spermes peut être à la base d'une infertilité qui n'est pas féminine. Mais plutôt, quand on parle de l'infertilité, on parle du couple, pas qui de la femme. Donc ça, ça a permis à beaucoup de gens de comprendre ce qui c'est. Il y a des gens qui m'ont écrit des mails ou lors d'une projection qui attestent qu'après avoir vu le film, on a décidé d'aller faire un examen à deux. Donc je trouve que c'est déjà une avancée.
Et ça, c'est la réaction du public.
Ça, c'est la réaction du public.
Votre film est d'autant plus audacieux qu'il s'agit de votre propre histoire, vous l'avez dit. Vous êtes le sujet et la réalisatrice. Est-ce que dans votre prochain film en cours de production, Aïcha Maki, vous persistez dans ce regard différent, féminin, sur la société nigérienne?
Actuellement, je suis en train de travailler en fait sur... cette fois-ci, c'est une thématique sur des jeunes. C'est un regard en fait des jeunes nigériens, mais qui s'étend sur toute la jeunesse du Sahel, embourbée aujourd'hui dans cette histoire. Aujourd'hui, dans cette histoire de la question en fait de la radicalisation. Donc, je pars d'un prétexte en fait qui était les émeutes de Charlie Hebdo. Donc, il y avait vu la mort de plusieurs personnes au niveau des Andars et Aniamé. Donc, à travers ces prétextes-là, je suis en train d'interroger la question du devenir de la jeunesse du Sahel à travers un phénomène bien singulier qui est un phénomène lié à Zandar qui s'appelle le phénomène du palais.
Ramatou Keita, vous-même êtes-vous engagé dans un nouveau projet cinématographique et que pensez-vous de vos cadettes?
Alors, engagé, oui, on n'arrête jamais de s'engager dans des nouveaux projets. Moi, je dis, j'ai pas assez de ma vie pour réaliser tous les films que j'aimerais réaliser, parce qu'en plus, c'est très long, enfin, ça dépend. Ils sont très, très onéreux, parce que je reconstitue des villes, des costumes, etc., etc. Donc oui, je suis sur quelques pistes. Encore une fois, moi, ce que je pense, c'est que chacun a son univers, et chacun raconte ce qui le touche. Moi, ce que je regrette dans notre cinéma en général en Afrique, je pense Antoinette parlait de ça, en parlant de toujours critique, il n'y a pas de domaine du rêve. C'est normal qu'on ait aussi des questions, des critiques et tout ça. C'est-à-dire, à un moment, on respire pas, quoi. C'est toujours dramatique, que ce soit au Mali, au Burkina, machin. On dit, mais ce continent-là, où est-ce qu'on respire? Mais en même temps, on a des gros problèmes à soulever, c'est pas la question. Mais la question, c'est d'avoir une multiplicité de regards. Quand vous voyez le cinéma américain, qui est vraiment un cinéma, moi, que j'aime extraordinaire, il y a le meilleur et le pire. Il y a plusieurs univers. Il y a des choses sur la critique du cinéma, même américain, mais il y a aussi du romantisme, il y a aussi des comédies musicales, il y a aussi, voilà. Donc, je pense que plus on fera de films, plus il y aura d'individualité. Et plus ce sera pluriel aussi. Tout à l'heure, on parlait de regard féminin. D'abord, c'est son univers personnel. C'est des choses qui vous questionnent. Ensuite, effectivement, c'est féminin. Et je me rendais pas compte à quel point, quand je prends l'actrice Zali Kesley comme ligne conductrice du film, c'est certainement que moi, en tant que femme, je remarque qu'aucune autre... C'est la seule qui a accepté. Donc, les autres ne voulaient pas venir. Donc, elle se faisait insulter. Encore une fois, tous se faisaient insulter. Mais qu'il y ait une qui ait résisté, elle est intéressante à suivre. Et puis, qu'il faut la faire connaître parce que c'est pas normal. Donc, c'est certainement un regard de femme qui me fait dire, ça m'intéresse que ce soit elle le fil conducteur.
Alors, Antoinette a dit quelque chose. Vous voulez réagir, Antoinette Tidiane Alou?
Pour rebondir sur la question du regret et sur celle de la variété du regard, je me dis, quand les femmes regardent, font les films, elles regardent pas forcément des questions de femmes. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez de sujets qui mettent les femmes au centre. Il y a ce problème-là. Mais si on regarde Amina Ouira quand elle fait son film documentaire La colère dans le vent, mais c'est des destins qui sont des destins d'hommes, de femmes et d'enfants, et une question sociale de l'exploitation des personnes dans les mines d'uranium, une question que le Niger n'ose pas aborder pour les raisons qui sont les siennes, et une question que la compagnie d'uranium garde, dont la compagnie garde loin les journalistes. Oui, quand il y aura plus de gens, il y aura plus de sujets, mais encore, il faut plus que le fait d'avoir plus de réalisateurs, il faut qu'on s'autorise à faire ce qu'on a envie de faire. On ne s'autorise pas beaucoup à faire ce qu'on a envie de faire au Niger, parce que bon, il faut tellement d'énergie lorsque ce qu'on a envie de faire n'est pas ce que les gens ont l'habitude de faire, et les gens se rendent confortables dans l'habitude, même si cette habitude nous étouffe.
Oui, moi je pense effectivement que la création artistique, c'est ça, c'est d'aller au bout de soi, d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Mais en même temps, moi, je ne crois pas que ce soit une question seulement de Niger. Ça, c'est une question du continent africain et de toute sa diaspora. Je veux dire, avec tout ce qu'on nous renvoie, tout ce qu'on nous renvoie comme image de nous-mêmes, comme histoire de nous-mêmes, qui ne sont pas les nôtres, et qu'on finit par s'accaparer. Je veux dire, ça fait 5 siècles qu'on nous rabâche ce qu'on voudrait qu'on soit, et c'est difficile de pas tomber dans ce piège-là.
C'est tout un travail.
Donc effectivement, c'est la libération, c'est arriver à dire ce qu'on a envie de dire, quel que soit ce que pense l'autre.
Antoinette Alou et Ramatou Keïta, je suis très heureuse. Je vois que vous êtes en plein dans l'émission. Ça fait plaisir. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. On va justement évoluer vers la fin de cette émission où nous débattons de l'image de la femme dans le cinéma nigérien, l'évolution du regard du cinéma sur les femmes sous la pression de réalisatrices femmes n'est pas terminée. Ramatou Keïta, Aïcha Maki, Antoinette Tidiani Alou, existe-t-il des sujets interdits? Aïcha?
Mais en fait, je crois que le cinéma, c'est d'abord une question personnelle. C'est une question de son propre point de vue. Et en tout cas, à mon niveau, un sujet interdit, je ne le vois pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, je fais... J'ai comme ligne éditoriale, en fait, tout ce qui est tabou, parce que on n'a pas que le beau dans nos sociétés, il faut le dire, il ne faut pas s'y cacher la face. On a beaucoup de leaders dans nos sociétés et il fallait aussi toucher du doigt tous ces problèmes que nous avons. Moi, à mon niveau, je trouve pas. Un sujet interdit, peut-être la façon de les traiter.
Oui, Ramatou, Keïta.
Moi, j'aime pas blesser les gens gratuitement. J'aime raconter nos histoires comme je les ai vécues. Et moi, j'aime la beauté. Voilà. Dostoïevski a dit, c'est la beauté qui sauvera le monde. Pour avoir de la beauté, il faut avoir beaucoup de générosité et beaucoup d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose. Mais ceux qui savent faire autre chose ou qui ont envie de le montrent aussi. Et tant mieux. Partout dans le monde, il y a du tout.
Nous écoutons à présent Antoinette Tidiani Alou.
Moi, je pense que ce n'est pas toujours subjective ce qui est interdit. On peut avoir une très grande liberté dans sa tête et se trouver censuré publiquement. Je pense que, par exemple, le film Sarawinia de Medondo était une occasion ratée pour le Niger. Le Niger s'était engagé pour faire ce film-là, contrat signé et tout. Et puis, tout d'un coup, pour des raisons certainement politiques, historiques et diplomatiques, c'était pas un sujet que les pouvoirs impériaux voulaient qu'on traite. Ce film a été, le Niger s'est désintéressé de ce film et c'est, voilà, une occasion.
C'était des raisons financières, Antoinette. C'était des raisons financières.
Ramatou, tu permets que je finisse.
Je t'en prie.
Donc, je disais que finalement, ce beau film-là où on s'était engagé et où finalement le Burkina a permis que le film soit fait en garantissant un prêt très onéreux à Medondo. C'est vraiment un grand sujet très important, une figure historique extrêmement importante pour le Niger. Et ce film-là, on n'a pas fait. Et pour moi, c'est un grand regret. Chaque fois que je vois ce film, et on ne le voit pas assez, et sans qu'il y ait le Hausa ou une langue nigérienne parlée dans ce film, ça me fait mal. Et donc, je pense que parfois, les occasions, le tabou peut être politique. Le tabou peut être culturel. On ne parle pas du corps, on ne fait pas l'amour à l'écran, etc. Et je pense que finalement, pour que les tabous soient brisés, il faut du courage et il faut aussi que ceux qui font les films se disent qu'on peut faire toutes sortes de films différents, de notre regard qui réinterprète nos traditions.
Espace Femmes, c'est aussi de la distraction et de la détente informative. Je vous souligne, je vous propose à présent notre rubrique Affairage et elle nous parle de l'hygiène postnatale.
Affairage, 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 affairage.
Je te dis pas, ma copine, moi, depuis mon accouchement là, je saigne tellement que je ne sais même pas comment gérer ça.
Mais qu'est-ce que tu racontes là? Regarde par exemple, pour éviter les infections et être propre, évite déjà tout ce qui est gel de douche agressif, produits alcoolisés et savon parfumé. Pour ta toilette intime, utilise de l'eau tiède, du savon de Marseille et des serviettes propres.
Serviettes? Les mêmes que j'utilise là pour mes menstrues? Ou bien il y a des serviettes spéciales?
Oui, les mêmes serviettes que tu utilises. Tu peux aussi utiliser du coton, des tampons ou encore plus économique parce qu'on se connaît. Quelquefois, c'est compliqué. Utilise du linge propre que tu dois changer 3 fois par jour ou même plusieurs fois au besoin si tu saignes beaucoup. Regarde, ton simple pagne là, tu peux le découper en morceaux, il fera l'affaire. Assure-toi juste qu'il soit bien propre.
Ça, c'est facile. Mais pour ma toilette, je fais comment?
C'est aussi simple que ça. De la même façon que tu saignes, c'est de cette même façon qu'il faut que tu te changes. Donc, ta toilette, tu la fais autant de fois qu'il faut.
Hein? Aussi simple que ça? Mais attends, tu me parles de savon parfumé, l'eau tiède. Tu oublies nos petits secrets, les plantes magiques qui font des miracles.
Non, surtout pas. C'est à bannir ces pratiques-là. Ça peut être dangereux pour ta santé. En plus, dans cette période, l'organisme de la femme est très sensible. Et tu vois, ma copine, sois très attentif si tu remarques que les saignements changent de couleur ou d'odeur. Cours vite voir un gynécologue.
Un bon? Merci, ma copine. Tu es géniale. J'ai bien compris tout ce que tu viens de dire.
Et tu connais pas le bonus. Tout ce que je t'ai dit te permettra de retrouver ta fraîcheur.
Ça, ma chérie, c'est vrai affaire. La suite dans les groupes WhatsApp.
Affaire. 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 Affaire.
Nous étions ce soir en studio avec la professeure Antoinette Tidiani Alou à partir d'Abidjan.
Merci de m'avoir permis aussi de partager avec Aïcha Maki, avec Ramatou Keita, dont j'adore le travail. Et bravo les filles.
Bravo, merci Antoinette.
Bravo à toi aussi.
Et les réalisatrices nigériennes Ramatou Keita et Aïcha Maki pour débattre de l'évolution de la représentation de la femme dans le cinéma nigérien. Une évolution qui ne fait que commencer puisque le nombre de professionnels du cinéma est en plein essor. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à la prochaine.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.